7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Ravie de vous retrouver pour presque une heure d'échange et de réflexion aujourd'hui autour de la place des femmes dans le monde grâce à l'Atlas mondial des femmes qui vient de paraître aux excellentes éditions Autrement en partenariat avec l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Précisons que le sous-titre de l'Atlas est « Les paradoxes de l'émancipation », un sous-titre qui est aussi la grande réussite de ce livre, être nuancé dans les données qu'il apporte. Les avancées sont soulignées et mises en perspective et les recul et les dangers aussi. Avec nous en studio pour en parler, les trois auteurs de l'ouvrage, Wilfried Roux, sociologue, Isabelle Attané et Carole Brugeil, qui sont toutes deux démographes, et en ligne depuis Dakar, Fatou Sow, qui est sociologue comme Wilfried Roux, et Fatou Sow est spécialiste de la question de genre. Merci à chacun de vous pour votre présence et les lumières que vous nous apporterez. Les voisins, dites-nous aussi comment vous vivez la place des femmes, dites-nous tout au 33 1 84 22 71 71. Alors, première question, je vais l'adresser aux trois auteurs que vous êtes, la gageure de la mesure. Comment est-ce possible? Comment on peut mesurer la place, l'avancée des femmes dans le monde? Parce que c'est l'ambition de cet ouvrage, Atlas mondial des femmes, quand on est trois chercheurs scientifiques depuis la France. Qui me répond? Isabelle Attané, puis peut-être Carole Brugeil.
Alors la mesure de la situation, en fait, de la situation et de l'évolution de la situation des femmes dans le monde, évidemment quelque chose de très complexe. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, il existe un certain nombre de bases de données qui sont établies et actualisées régulièrement par des grandes organisations internationales. Mais c'est vrai que ce qu'il faut préciser tout de même, c'est que dans l'Atlas, donc qui est constitué de doubles pages, certaines effectivement donnent un panorama mondial. C'est-à-dire qu'on a des informations pratiquement pour tous les pays du monde, mais sachant que l'objectif de cet ouvrage était de n'utiliser que des données fiables, on n'a pas toutes les informations pour tous les pays du monde.
Et à chaque fois, vous le précisez. Vous précisez que sur un sujet donné, si vous n'avez pas les données pour tel pays, vous le dites.
Tout à fait.
Et c'est tout à votre honneur. Carole Brugeil.
Oui, je voulais rajouter que justement, il fallait être très rigoureux sur ces sujets-là, parce qu'on a souvent l'impression que c'est la situation des femmes, elle a beaucoup évolué, que la question se pose plus. Et donc, c'est vraiment un domaine dans lequel la rigueur scientifique est très importante. C'est pour ça qu'on s'est un peu... on a pris un peu une optique d'une démarche démographique ou sociologique en faisant appel à des spécialistes sur les sujets, sur tous les sujets concernés, et en multipliant aussi les approches disciplinaires et les approches en termes de données. C'est-à-dire qu'on a des données statistiques, mais aussi on ne s'est pas privé d'autres données plus qualitatives, biographiques, littéraires, qui donnent un éclairage complètement complémentaire à ces données statistiques.
Wilfried Roux, qui est le sociologue de l'équipe.
Oui, il y avait aussi une volonté de notre part, en fait, de mettre parfois l'accent sur certaines régions du monde, de la même manière qu'on le fait sur certaines thématiques.
Par exemple,
qui fait que dans certains cas, certaines pages sont davantage consacrées à l'Europe, d'autres font la part belle à l'Amérique, au continent américain ou africain. Enfin, en fonction des thématiques qu'on a évoquées, on a choisi parfois de faire des thématiques, des focus qui faisaient sens pour nos sujets.
Fatou Sow, pour la sociologue que vous êtes, un ouvrage, comment recevez-vous la parution d'un ouvrage comme celui-ci? Allô, Fatou? Fatou Sow à Dakar. Bon, dès qu'on retrouve Fatou, on lui reposera la question. Avançons. Avant de nous attacher à ce qui va bien, ce qui progresse et ce qui doit être dénoncé ou éradiqué carrément, une nouvelle fracassante. Il y a désormais plus d'hommes que de femmes sur Terre, les voisins. Et c'est vous, Isabelle Attané, qui avez travaillé sur la question.
Oui, tout à fait.
C'est tout à fait récent.
C'est relativement récent. Alors il faut savoir que à l'échelle du monde, effectivement, il y a deux facteurs qui jouent dans cette évolution. Ce sont d'une part les différences de mortalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'il y a traditionnellement et normalement des écarts avec les femmes qui en principe ont une espérance de vie qui est plus plus longue que celle des hommes. Donc en fonction de l'écart qui est observé dans telle ou telle région, effectivement, ça peut expliquer pourquoi on va trouver plus d'hommes que de femmes, notamment en fonction du niveau de vieillissement de la population ou du niveau de jeunesse de la population en question. Et la deuxième variable qui est importante et qui elle a de plus en plus de poids aujourd'hui, c'est la proportion de garçons par rapport au nombre total de naissances. Il faut savoir, enfin, j'imagine que les auditeurs le savent, et malheureusement on a entendu parler, c'est vrai que depuis une quarantaine d'années, dans les deux grands pays d'Asie et aussi les deux grands géants mondiaux que sont l'Inde et la Chine, qui à L2 représentent près de 40% de la population mondiale, ce qui est considérable, il y a une évolution qui va vers des proportions de plus en plus importantes de garçons à la naissance.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Isabelle Attané, que s'il y a plus d'hommes que de femmes aujourd'hui dans le monde, c'est que les pays les plus peuplés au monde comptent eux aussi plus d'hommes que de femmes à cause de ce qu'on appelle, de ce que scientifiquement vous appelez l'avortement sélectif.
C'est une des raisons, et une raison qui prend de plus en plus d'importance. Par exemple, il faut savoir que il y a une règle biologique qui régit la proportion de garçons et de filles à la naissance.
Oui, il y a plus de garçons qui naissent que de filles.
En principe, on trouve entre 105 et 107 garçons pour 100 filles la naissance. Mmh. C'est quelque chose qu'on observe absolument partout, sauf dans certains pays, en particulier l'Inde et la Chine, où ces proportions aujourd'hui en Chine, on a aujourd'hui 118 garçons pour 100 filles à la naissance.
Et ça n'est pas naturel.
Et ça n'est absolument pas naturel. Évidemment, ce sont les couples qui pratiquent de plus en plus d'avortements sélectifs pour favoriser les naissances de garçons.
Mais c'est très bien, vous avez précédé ma deuxième question qui était aussi pour vous. J'allais vous demander, j'allais vous dire qu'être femme, ça commence par avoir le droit de naître fille. Et donc on comprend que ça n'est pas encore le cas, même aujourd'hui, partout dans le monde.
Je vais juste vous corriger un tout petit peu, parce que vous dites que ça n'est pas encore le cas. Le problème, c'est qu'en particulier pour l'Inde et la Chine, ça l'a été le cas et ça ne l'est plus. Et ça, je crois que s'il y a une grande régression à retenir en termes d'évolution, c'est que jusque dans les années 70-80 en Chine, les ratios dont je vous parlais tout à l'heure étaient tout à fait respectés. Et c'est depuis les années 80, avec la modernisation économique, avec la modernisation des techniques de détermination prénatale du sexe, avec le contexte économique qui accentue les rivalités et la compétition sur le marché du travail, il y a de plus en plus de discrimination
et elle est défavorable aussi.
Voilà.
Et on préfère donc mettre au monde des garçons. Fatousso, êtes-vous de retour avec nous?
Oui, je suis de retour, je suis désolée.
Mais écoutez, l'essentiel c'est que vous soyez là. J'aimerais qu'on parle de ce qui va bien ou de ce qui pourrait ressembler à une bonne nouvelle. Les femmes ont de plus en plus de droits politiques et économiques. On sait que il y a aujourd'hui 22% de femmes parlementaires dans le monde. Aujourd'hui, en 2000, il y avait 22% de femmes parlementaires contre 14% aujourd'hui c'est 22%, 14% en 2000. Et les pays les plus avancés dans le domaine sont les pays d'Amérique latine et les Caraïbes et l'Afrique aussi, avec le Rwanda qui alors lui explose les quotas avec plus de 60% je crois du Parlement qui est féminin. Et le Sénégal aussi est en bonne place. C'est une bonne nouvelle.
Excellente nouvelle, parce que le Sénégal est à 43% de femmes au Parlement, mais la veille du vote, nous n'étions qu'à environ 22%, donc on a littéralement doublé le chiffre. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'une loi sur la parité a été votée en 2010 qui obligeait tous les partis politiques à avoir une liste à parité égale entre hommes et femmes sur les pour les élections législatives, municipales. Mais alors ça, c'est ce qu'il y a de bien, mais ce qui a...
C'est la partie émergée de l'iceberg.
Voilà, exactement. C'est que premièrement, on a eu des élections en juin dernier, mais il y a une ville qui est une ville religieuse qui a mis 0% de femmes, alors que la liste aurait dû être annulée, ça n'a pas été fait parce que c'est une ville religieuse et le pouvoir politique a reculé devant ce fait. Ça, c'est le premier problème. Donc, on va avoir de par des difficultés. Là, l'État a dû... la Cour suprême a annuler des listes qui étaient faites parce qu'elles n'étaient pas paritaires. Donc c'est extrêmement, enfin, comment ça, c'est difficile. Donc,
ça, c'est difficile et en même temps, oui, alors je vous laisse continuer, allez-y.
Voilà. Donc là, c'est la raison, c'est que c'est difficile de maintenir la parité, alors que les femmes en veulent, mais l'opinion populaire est assez sceptique. Et le deuxième inconvénient, c'est que, au fond, nous avons des assemblées nous avons des avancées démocratiques, parce que les citoyens participent, les femmes peuvent participer, mais on a quand même des pouvoirs autoritaires au-dessus.
Et donc, en même
que quel que soit, mm-hmm. voilà, écoutez, c'est comme le Rwanda. Au Rwanda, hein, on a plus de 100% des femmes au Parlement,
oui.
Mais Kagame, il fait un peu ce qu'il veut.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les femmes sont une belle affiche au Rwanda, mais qu'au fond, elles n'interviennent pas vraiment dans la vie démocratique du pays?
Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'elles font énormément de travail. Elles vont promouvoir les droits des femmes et les droits citoyens, simplement, parce qu'elles participent à tous les débats. Mais au niveau de décisions politiques les plus élevées, on a quand même très peu d'influence. Hein. Les partis politiques, sauf si ce sont les partis politiques, le parti politique du président a quand même très peu d'influence.
Donc ces beaux chiffres.
Et ça, c'est la vie démocratique au Sénégal, hein. On retrouve ça au Bénin, au Cameroun.
C'est une réalité du continent.
Absolument.
Wilfried Roux.
Oui, je trouve très intéressant dans ce que dit Fatousseau la question de la place du droit, c'est-à-dire qu'on observe sur plusieurs thématiques, hein, pas seulement celle des droits politiques qu'on évoquait, mais sur d'autres questions, on observe des évolutions du droit qui sont assez notables, mais on aurait tort de penser qu'une fois que le droit a évolué, les choses sont faites. On en est très très loin, c'est-à-dire que entre l'adoption d'une loi et avant même la mise sur l'agenda politique et médiatique de questions qui concernent l'avancée des droits la réalisation de l'égalité, il y a un long chemin à parcourir et souvent l'évolution du droit n'est qu'une première étape. Il faut que les comportements, les usages, les habitudes évoluent également dans le prolongement des évolutions politiques et législatives.
Et pour l'illustrer, il me suffit de regarder dans cet atlas, page 82, il est dit très clairement par exemple qu'en Australie, les femmes peuvent voter depuis 1902 et au Canada depuis 1918, mais la proportion des femmes parmi les parlementaires n'est dans les deux cas que de 25%. Donc, une chose est la loi et l'autre son application, comme vous le disiez justement, Carole Brugeil, et ensuite un peu de musique.
Oui, tout à fait. Alors, cela dit, c'est vrai hein, qu'il y a vraiment une distance entre la loi et les faits, mais la loi est vraiment très importante et ça, il faut vraiment le rappeler. D'ailleurs, Fatousseau le disait, s'il y a eu la parité, certainement, c'est parce qu'il y a eu une loi sur la parité. Donc, dans toutes ces questions d'égalité et de place des femmes, la question de l'action publique, du politique, est absolument primordiale. Les conventions internationales signées engagent quand même les pays et permettent de dépasser un petit peu les particularismes culturels. Donc, vraiment, pour beaucoup de femmes et d'hommes dans le monde, c'est vraiment des ressources importantes qu'il ne faut pas négliger pour justement saisir le politique et faire avancer concrètement les situations des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes.
Tensions et actions autour de la place des femmes dans le monde, les voisins. C'est le sujet de notre rencontre du jour à travers la découverte de l'Atlas mondial des femmes et leurs trois auteurs ainsi que Fatousseau que vous venez d'entendre qui est au Sénégal tout de suite. C'est la musique de Lily Allen. Ça s'appelle Womanizer. Superstar, where you from? How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with their strings up, faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are.
The swagger of a champion, too bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one
too many makes it hard. It could be easy. Who you are, that's who you are, baby. Lollipop, must mistake me, you're the sucker. To think that I would be a victim, not another. Say it, play it how you wanna, but no way I'm ever gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a woman.
Hélène, dans 7 milliards de voisins, c'est Womanizer. Et 7 milliards de voisins s'intéressent au sort de un peu moins de la moitié des voisins sur Terre. Les voisines, l'Atlas mondial des femmes, c'est notre sujet. Le sous-titre, les paradoxes de l'émancipation. Vous l'aurez compris si vous suivez cette émission depuis le début. Les avancées sont à nuancer. Les reculs également, puisque quand il y a recul, il y a aussi la vigilance des voisins et des voisines. Voyons ce qu'en pense Adama, un voisin dakarois qui donc est dans la même ville que vous. Fatousso, bonjour Adama. Adama, et bienvenue. Adama ?
Oui, bonjour.
Ça bonjour, va, bonjour, vous êtes le bienvenu.
Bonjour, je vais très bien. Alors, c'est très important, moi j'ai fait un constat.
Oui.
En faisant une petite comparaison entre nos grands-parents,
oui,
et les femmes de mon époque. Donc, nos grands-parents, l'activité principale de la femme tournait autour de la maison et s'occuper des enfants et s'occuper des maris, du mari, etc. Et toutes ces activités tournaient autour de la famille. Donc la femme était en quelque sorte le grenier, l'intendante, et incarnait même la valeur, les valeurs fondamentales de la famille. Mais actuellement, avec l'émancipation, avec, disons, les droits des femmes, nous constatons que la femme reste plus à la maison. Ce qui se passe, c'est quoi? Le mari se lève, la femme se lève. Le mari va au travail.
Mais ça n'a pas changé. Avant, le mari se levait, la femme se levait aussi. Ce que vous soulignez, oui, c'est qu'il se lève et les deux quittent la maison. C'est votre point, voilà. C'est ça? D'accord.
Tout à fait. Parce que la femme au foyer, déjà, on constate actuellement qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que tout simplement, la femme n'assure plus sa place. Sa place de grenier, d'intendante, est celle qui s'occupe de la famille. Donc, vous faites la comparaison. Nos grands-parents vivaient 50 ans, 60 ans de mariage. Actuellement, la durée de vie des mariages ne dépasse pas 5 ans.
D'accord. Donc, votre constat, c'est que la fragilisation des couples est liée à l'activité extérieure, hors de la maison, des femmes. Vous avez un autre constat pour qu'on puisse laisser nos sociologues et démographes réagir?
Ouais, c'est le constat fondamental. C'est le constat fondamental.
D'accord.
La femme n'a surtout sa place. Donc, il y a une perte du sang qui est là. Et voilà, facilement, la dislocation de la famille est là à sa place. Alors que la femme a assuré la bonne bouche de la famille dans le temps. Donc, c'est le constat que j'ai fait.
Très bien. Merci pour votre participation. Et puis, merci d'avoir dit ce que vous pensez, Adama. Qui veut répondre? Carole Brugeaillet d'abord, Fatousso ensuite, et puis peut-être Isabelle Attané et ou Wilfried Roh. Carole Brugeaillet.
Alors moi j'ai une première remarque juste un petit peu sur le constat lui-même de dire que les couples duraient 50 ans auparavant. D'abord je suis un petit peu étonnée parce que compte tenu de la mortalité, je ne sais pas quand est cet auparavant idyllique, mais 50 ans ça me semble quand même beaucoup. Et puis je suis un petit peu étonnée aussi par le pessimisme de la durée des couples aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de données sur l'Afrique pour dire qu'un couple en moyenne dure 5 ans aujourd'hui. Donc je suis pas convaincue que sur la longévité, sur cette question de longévité des couples,
ça, vous le remettez,
il y a vraiment
déjà
statistiquement
en
voilà, cette évolution là. Bon, voilà. Ensuite, quelle est la finalité aussi? Est-ce que la finalité c'est la longévité des couples en eux-mêmes et une certaine forme de stabilité un peu figée, ou finalement cette émancipation des femmes, elle permet aussi d'autres vécus aux femmes mais aussi aux hommes qui peuvent être aussi moins contraints de prendre économiquement en charge les familles, les enfants, donc un partage de cette responsabilité économique beaucoup plus important qui peut bénéficier quand même en ramenant des revenus supérieurs à tout le monde.
Fatousso, restez avec nous. On prendra votre avis juste après le flash. 7 milliards de voisins, dont un peu moins de la moitié sont des voisines. Comment vivent-elles? Comment évoluent-elles? Ce qui est une autre manière de nous demander comment va notre monde, non? On se retrouve dans 3 minutes avec Wilfried Roh, Fatousso, Isabelle Attané et Carole Brugeaillet. Et vos témoignages et points de vue, les voisins, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
retour à 7 milliards de voisins avec l'Atlas mondial des femmes qui est notre invité aujourd'hui, les voisins, et les trois auteurs de cet ouvrage, Carole Brugeat, Isabelle Attané et Wilfried Roth. Nous sommes également en ligne avec Fatou Sow, qui est sociologue comme Wilfried Roth, à Dakar. Avant le Flash Info, un voisin, Adama, un voisin dakarois, nous faisait part de sa réflexion et de son constat plutôt pessimiste. Pour Adama, eh bien, le travail des femmes, le fait que les femmes travaillent en dehors de la maison, est à l'origine de la déstabilisation et de la multiplication des divorces dans les sociétés. Carole Brugeat a nuancé le propos en s'appuyant notamment sur la longévité qui est à nuancer. Et vous, Fatou Sow, qu'en pensez-vous?
Je suis un peu concernée de la remarque. Je pensais que l'avancée des droits des femmes avait également fait des avancées dans la tête des hommes. Mais il faut faire avec. Je pense que j'ai juste deux remarques à faire.
Oui.
La première, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui sortent de la maison, comme il le dit, pour travailler.
Oui.
Et elles travaillent parce que les hommes ont de moins en moins de moyens d'entretenir seules la famille. Elles sortent parce qu'on a de plus en plus de femmes qui sont scolarisées, qui font des études. De l'école primaire à l'université, on a quand même une entrée assez importante des femmes, donc il est normal qu'elles travaillent. En fait, ça pose la question. Alors, quand à la durée du ménage, c'est vrai qu'on a des femmes qui sont mariées pendant 50 ans, mais combien d'hommes sont mariés à une seule femme pendant 50 ans? La polygamie n'a jamais été aussi forte au Sénégal que ces dernières années, si on se réfère au dernier recensement paru en septembre 2014.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, alors même que les femmes sont de plus en plus éduquées. Comment expliquez-vous cela, Fatou?
J'explique parce que je pense du côté des hommes, il y a cette très grande permissivité d'avoir plusieurs épouses. Je pense que ça sort un peu de peut-être de l'ennui matrimonial, je ne sais pas. Mais je pense que pour les femmes, on a toujours cette pression sociale très forte qu'on est femme véritablement que quand on est mariée et que l'on a un enfant. Uh-huh. Et cette pression est toujours très forte sur les femmes et quel que soit les milieux.
Et quels que soient les pays, je suis moi qui vis en France, j'ai le même retour.
Je parle de l'Afrique de l'Ouest,
Mais en France, c'est pareil.
Et certainement de la fille musulmane où la polygamie est autorisée par la religion et du coup entérinée par la loi.
Très bien. Wilfried Roth, Isabelle Attané.
J'aurais souhaité juste ajouter un petit élément, c'est que je crois que l'instabilité... si on peut utiliser ce terme-là, des couples, enfin la moindre longévité des couples, c'est d'abord et avant tout une évolution des sociétés, et que en aucun cas, je crois que l'autonomisation des femmes ne peut être mise en accusation, et que maintenir les femmes sous la coupe de leur mari, effectivement, on ne peut pas concevoir ça comme une situation meilleure. Alors elle est peut-être meilleure aux yeux de certains hommes, mais en aucun cas, elle ne peut être vue comme un recul.
Wilfried Roth, les femmes responsables de la déstabilisation des sociétés?
Non, je pense que ce que
le travail des femmes.
Ce que ce monsieur évoque, c'est vraiment un modèle qui renvoie véritablement chaque sexe à un rôle social prescrit, très défini. Et au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, ça doit aussi nous questionner sur la place des hommes finalement.
Bien sûr.
Est-ce que tous les hommes ont vocation à s'inscrire aussi dans ce modèle de la même manière que d'après monsieur, les femmes ont vocation à
être les piliers du foyer de manière traditionnelle,
à ne pas sortir de la sphère domestique? C'est une véritable question, et on voit d'ailleurs quelques évolutions dans le sens d'une plus grande perméabilité des rôles sociaux et qui vont dans le sens d'une liberté finalement à choisir son propre destin.
Bon, alors quittons la sphère domestique pour aller vers le travail, justement, puisqu'il a été évoqué comme élément déstabilisateur dans cet atlas. Il est plutôt présenté comme en progrès. Sur le marché mondial, 4 personnes sur 10 sont désormais des femmes. Et en même temps, elles restent concentrées dans des domaines très précis, l'agriculture, les services, c'est-à-dire éducation, santé, travail social, administration, commerce, restauration et la culture. C'est une avancée ou pas pour vous? Qui me répond?
le fait que l'emploi des femmes se développe effectivement en soi est une avancée.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir quand même que les femmes ont toujours travaillé, mais que effectivement, il faut bien distinguer le travail formel et l'activité informelle, hein, qui est extrêmement répandue pour les femmes dans certaines régions du monde. Mais il faut garder à l'esprit également que ces progrès sur le marché de l'emploi gardent un peu les stigmates en fait des inégalités qui interviennent en amont et notamment en matière d'instruction et de formation, de type de formation. Et malgré tout, ce qui a été mis en évidence notamment dans la TAS, c'est que en dépit d'une amélioration de l'instruction des femmes, et on sait aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, les filles font des études beaucoup plus longues que les garçons, mais elles restent la plupart du temps cantonnées dans des filières universitaires qui sont traditionnellement étiquetées comme féminines, et certaines autres filières qui elles sont étiquetées masculines, hein, je
plus
veux dire des guillemets plus scientifiques notamment, les femmes sont beaucoup moins représentées. Donc le fait que à l'échelle mondiale, si l'on peut dire, hein, pour faire être un peu synthétique, les différences dans les niveaux d'instruction et les types de diplômes des hommes et des femmes aboutissent finalement sur le marché de l'emploi à des inégalités à la fois en termes de secteurs dans lesquels hommes et femmes travaillent, mais aussi à secteurs qui dans un même secteur on va trouver de fortes inégalités, mais plutôt en termes de salaire. C'est-à-dire que, bien souvent, à travail égal, dans un même secteur d'activité, les femmes vont être en moyenne moins payées que les hommes.
Mais alors, du coup, est-ce que ça n'est pas un peu décourageant pour les voisines qui nous écoutent, puisque même pour ce qui est de l'accès au pouvoir économique, une femme qui va faire des études, qui va donner tous les gages de sa capacité à y avoir accès, n'aura pas accès. Les pays qui se détachent étant toujours les mêmes, les pays scandinaves.
Ça ne doit pas les décourager. Au contraire, ça doit être un encouragement à continuer à se battre justement pour faire changer les choses. Et il y a une dynamique quand même de long terme qui est vers une amélioration globale, et donc il faut vraiment continuer à se battre et rester à l'avant-garde effectivement. Et d'une part pour essayer d'acquérir de nouveaux droits ou de mieux faire valoir ce qu'on a déjà acquis, mais il faut aussi lutter pour préserver les acquis, et ça je crois que c'est quelque chose de très important. Donc il faut continuer à
Wilfried Roux.
Oui, c'est un petit peu le sens de la dernière partie de cet atlas qui est consacré véritablement à l'importance des mouvements politiques, des mouvements associatifs qui se sont développés depuis très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps qu'on peut le penser, et de manière mondiale, avec des objectifs assez différents selon les causes locales, mais en tout cas l'importance vraiment du combat politique pour faire avancer ses droits. Donc, comme le disait Isabelle, effectivement. Certes, les inégalités se sont déplacées, les verrous sont à des endroits différents, mais ça doit justement pas conduire à une forme de découragement. Toutes ces luttes montrent que l'importance aujourd'hui,
que précisément c'est quand on lutte, ça change.
Voilà.
Fatousso, la lutte pour l'accès aux droits professionnels, au pouvoir économique, c'est une question de lutte politique pour vous?
Non, absolument. Mais moi, je reste très optimiste, hein, parce que dans les années 60, on avait 0,0 quelque chose pour cent de femmes à l'université.
Oui.
Aujourd'hui, en 50 ans, on est arrivé à 25%. C'est peu, mais c'est beaucoup, parce qu'on a énormément de femmes, finalement, dans toutes les filières. On a, à l'université, par exemple, on a plus en plus de femmes médecins, mais elles sont pas seulement pédiatres et gynécologues. Elles sont en chirurgie, elles sont en pharmacie, elles sont dans des... En fait, elles sont dans les domaines où on les attendait pas, où on les attendait peu. Je vois également, elles sont en médecine militaire, on a de plus en plus de femmes. Dans la police, on a de plus en plus de femmes. Le chef de la police est une femme au Sénégal. Donc on a, malgré les chiffres qui sont des chiffres bas, je pense qu'en 50 ans, on
vous
a...
Vous notez de réelles avancées.
Exactement, de réelles avancées. C'est juste aux 15 dernières années. Et je vois, même en termes de promotion à des postes de direction, même si elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on voudrait, la parité n'est pas, mais elles avancent en force. Et ça, il faut le dire, parce que c'est un modèle pour les jeunes générations. Et c'est ce modèle qui fait que les femmes sortent. Je suis désolée
pour Adama.
qui regrettait qu'elles sortent, mais elles vont sortir de plus en plus. Parce qu'elles sont de plus en plus armées pour aller sur le marché du travail. Mais la contrainte, la grande contrainte, oui. d'abord le marché du travail lui-même en Afrique et le marché du travail au Sénégal, il est relativement faible. On a énormément de femmes qui sont dans les activités économiques, mais dans le secteur dit informel. On devrait d'ailleurs cesser de l'appeler informel. On a des femmes qui sont femmes d'affaires et elles sont dans les secteurs des tissus, mais le matériel électronique, dans les équipements industriels. Donc les femmes vraiment, elles poussent. Et elle pousse les portes avec beaucoup de force, tout en gardant ce profil que l'on attend d'elle, doux, gentil, soumis.
De féminité et de gestion des affaires, des affaires familiales.
Elle continue de colporter, mais il y a quand même une très grande avancée, et ça, je tenais vraiment à le souligner.
Vous me rappelez alors cette phrase que Myriam Makeba avait coutume de dire, dit-on. Elle disait que la femme africaine est la seule femme qui sache conduire une voiture depuis la place, depuis le siège arrière. Fatou So. Carole Brugeil.
Alors, quand même, il faut souligner qu'un des freins, justement, à l'expansion des femmes dans le milieu professionnel et à faire des carrières au même titre que les hommes, c'est quand même la question de l'articulation entre cette vie professionnelle et la vie familiale. Et là, on va retomber sur vraiment des rôles prescrits avec la prise en charge des enfants, du foyer, justement, principalement par les femmes. En cela, l'éducation est évidemment très importante pour changer ces représentations et cette image d'une nécessité de la présence très forte des mères auprès des enfants pendant toute leur petite enfance. Et il faut aussi souligner là l'importance à nouveau des pouvoirs publics qui vont donner plus ou moins la possibilité aux femmes d'articuler la vie familiale, la vie professionnelle, et puis aux hommes aussi de trouver une autre place dans cette articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Mais donc l'éducation et les pouvoirs publics ont un rôle très important.
Mais alors justement, cette question d'éducation, je vous la soumets, l'impression que ça donne en vous entendant, et notamment vous, Fatou So, c'est que les femmes éduquées en Afrique et un peu partout dans le monde semblent avoir plus de difficultés à tout mener de front que les femmes qui ne le sont pas et qui font des affaires, comme vous le disiez, notamment dans le domaine informel, et qui arrivent à gérer, elles donnent l'impression en tout cas de réussir à gérer ça sans s'en plaindre en tout cas. Vu de l'esprit ou réalité?
C'est une certaine réalité, hein, parce qu'on a encore la chance d'avoir un appui familial très fort. Et en plus, on a également quand même le marché du travail, enfin, l'aide domestique reste encore assez important, parce que même des femmes qui ont un petit salaire peuvent se permettre d'avoir quelqu'un qui reste à la maison avec
oui.
un salaire.
Donc c'est ce que dit, c'est ce que soulignait Carole Brugeil. C'est-à-dire que ce qui en Afrique est prise en charge par la famille et par un accès à de l'aide assez facilement, facile économiquement, doit être remplacé dans les autres pays, dans les pays dits organisés ou développés, par une volonté de l'État.
Oui, tout à fait, comme c'est particulièrement le cas, notamment en France, où il y a quand même des structures de prise en charge de la petite enfance qui nous sont assez enviées par un grand nombre de pays, notamment effectivement le développement des crèches à un coût relativement abordable pour les familles, et en particulier l'école maternelle également.
Et encore,
peut-être pas suffisant, mais c'est déjà c'est quand même beaucoup plus développé que dans la majorité des autres pays. Et une des spécificités françaises est l'existence d'écoles maternelles gratuites, ce qui veut dire qu'à partir de 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, un enfant est gardé sans que ça coûte ça coûte de l'argent aux familles. Et ça, effectivement, l'implication de l'État dans le développement de structures de prise en charge de la petite enfance est tout à fait prépondérant et déterminant des opportunités que les femmes vont pouvoir développer sur le marché de l'emploi et en termes de carrière.
On comprend bien, grâce à vous, mesdames, messieurs, que selon les lieux où l'on vit, évidemment, les réalités ne sont pas exactement les mêmes, même si, évidemment, la nécessité de changement, d'avancer est la même. Tout de suite, c'est la musique tonique de Bruno Mars. Ça s'appelle Uptown Funk. Vous écoutez RFI.
One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band.
said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh.
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some liquor in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down.
Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh.
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it,
well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on.
Bruno Mars, Uptown Funk, dans 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, c'est l'Atlas mondial des femmes qui est à l'honneur. Cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Autrement, en partenariat avec l'Institut National d'Études Démographiques, nous offre un panorama des avancées, des bonnes nouvelles, et puis des nouvelles inquiétantes aussi, de la place de ce qu'on appelle l'autre moitié du ciel. Et nous sommes avec les trois auteurs, ici à Paris, en studio, enfin ici les Moulineaux, pour en parler. Wilfried Roux, Carole Brugeaillé, Isabelle Attané, et en ligne avec Fatou So, qui est sociologue depuis Dakar. Nous sommes encore dans la partie, allez, une dernière bonne nouvelle, et c'est dans la sphère intime que nous allons, Wilfried Roux, l'accès et le regard sur la sexualité est aussi en train de changer.
Oui, la sexualité est continue d'être un lieu où il y a beaucoup d'asymétrie entre la situation des hommes et des femmes, mais
et on cette observe asymétrie est en train de se réduire.
Voilà, on observe un rapprochement des trajectoires des hommes et des femmes dans plusieurs configurations, et en particulier, même si l'évolution est très progressive, le fait que de moins en moins pour les femmes la sexualité passe systématiquement par une perspective matrimoniale, donc soit liée aussi là à un destin social prédéterminé, prescrit. Donc,
c'est-à-dire que de moins en moins de femmes découvrent le sexe une fois mariées.
Voilà. Et d'une certaine manière, un peu comme les hommes, le découvrent dans d'autres cadres, des cadres qui précèdent l'entrée en vie conjugale cohabitante sous un même toit. Et donc, en ce sens, on a un phénomène de rapprochement qui est quelque chose qu'on retrouve aussi à une autre période de la vie, après 50 ans. Là aussi, une représentation assez commune, et c'est ce que montraient certaines enquêtes réalisées il y a déjà un petit moment. La vie sexuelle des femmes après à partir d'un certain âge, après 50 ans, était apparaissait comme étant relativement limitée par rapport à celle des hommes. Certaines enquêtes permettent
terminer.
Et la ménopause était souvent associée à cette fin.
C'était un point final à la vie sexuelle des femmes.
Voilà, tout à fait. Et on voit aujourd'hui dans des enquêtes sociologiques que il y a une évolution dans le sens de la continuation de la sexualité à ces âges un peu plus avancés.
Alors, Carole Brejaillet, vous souhaitiez...
Effectivement, non. Effectivement, il y a eu un rapprochement des sexualités, on va dire, dans le temps de la jeunesse, et puis après 50 ans, avec une diversité plus grande aussi des pratiques sexuelles, et là aussi une plus grande proximité.
Alors ça, c'était pour la partie bonne nouvelle. On va terminer cette émission avec les lanternes rouges et la vigilance qu'il faut avoir sur des sujets un peu moins souriants. Et je pense notamment au fémicide, qui est encore une réalité. Le fémicide, c'est le fait qu'une femme puisse perdre la vie, qu'on puisse ôter la vie à une femme, simplement parce que c'est une femme.
Alors ça, c'est pas un phénomène nouveau du tout, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est mis en exergue par justement cette qualification de fémicide, de crime ou de meurtre lié au fait d'être une femme, et par des études qui ont été menées, et le sujet a été beaucoup plus travaillé qu'auparavant, on va dire, alors qui ont montré qu'il y avait plusieurs formes de fémicide. Ce dont on parlait au début d'émission, par exemple les avortements sexo-sélectifs, sont une forme de fémicide, comme les maltraitances des petites filles, comme les crimes d'honneur, les crimes liés aux dots.
Ou les viols.
Les viols, bien sûr, les fémicides sexuels.
Alors les femmes restent en vie, mais psychologiquement, dans un état...
ne restent pas toujours en vie. Les crimes aussi dans le cadre de guerre, associés à cela, un certain nombre de suicides, par exemple, liés justement à la maltraitance ou à des violences. Ce qu'il faut dire, ce qui caractérise aussi ces fémicides, hein, c'est le fait que, contrairement aux homicides, très souvent il y a un lien entre la victime et l'auteur du crime, et que
un lien de proximité,
c'est-à-dire que les femmes qui sont victimes de ces fémicides, la moitié connaissait la personne, l'auteur de la violence, que ce soit quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage, parfois et de façon non négligeable, le partenaire dans le cadre de couple. Voilà.
Un voisin au standard de 7 milliards de voisins, un voisin bamakois, il s'appelle Amba Kiré, c'est avec lui que nous terminerons, et vos réponses, chers invités, seront aussi vos conclusions. Bonjour Amba Kiré, vous êtes le bienvenu.
Bonjour Amatéji et bonjour mes invités.
Comment ça va à Bamako?
Oui, ça va bien à Bamako.
Alors vous faites un constat, pour vous, les femmes maliennes ont une manière d'envisager les choses très particulières.
Oui, en fait surtout, je vais partir quand même dans une direction objective.
Rapidement, s'il vous plaît.
Voilà, au-delà de mes croyances aussi et puis des traditions qu'on m'a transmises, au fait, au Mali, le cas est très très particulier. Parce qu'en l'occurrence, des femmes ont des rues, même jusqu'à présent dans les blocs des universités, il reste encore jusqu'à présent des femmes qui pensent qu'en réalité, les femmes sont un objet à acheter, et la femme est appelée à être prise en charge.
Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mbakiré?
Je dirais que je suis pas du tout d'accord, je l'ai dit, je pars au-delà de mes croyances et de mes traditions. Je pense que les femmes doivent avoir une liberté, les femmes doivent avoir quand même une certaine égalité par rapport à l'homme dans mon pays. Et en réalité, comme on le dit dans mon pays, les hommes politiques évitent la question, parce que pour gagner une élection en Afrique en général et au Mali en particulier, il faut éviter ces sujets, qui est l'égalité des sexes. Parce que la plupart se disent musulmans. C'est en fait ça le problème.
Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Amba Kiré. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, donc je vais vraiment avoir très très peu de temps. Je vais demander à l'un de vous de répondre, de réagir au nom des autres pour quelques secondes. Qui se lance en studio? Allez, Fatou Sow, au Sénégal. Vous avez 30 secondes pour conclure.
Oui. Le principal paradoxe pour les droits humains des femmes, c'est au fond, plus on a de progrès, plus on a une montée des conservatismes, comme le dit le rapport, culturels et religieux.
Oui,
il y a une montée des fondamentalismes, sans tomber dans la paranoïa, il y a une montée des fondamentalismes en Afrique en tout cas, et en Afrique occidentale, qui est vraiment terrible, où le sort des femmes que l'on pensait en voie de progression est en train de reculer à cause des images, des discours qu'ils ont véhiculés par les porteurs de la religion.
Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous êtes établi en ce moment à Dakar. Merci Fatou Sow. Wilfried Roux.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Fatou Sow. Plus largement, on perçoit très bien que dès lors qu'il y a des avancées, elles suscitent assez régulièrement des réactions, ce qu'on appelle parfois des phénomènes de backlash, c'est-à-dire
retour de bâton.
Voilà, qui sont susceptibles de créer des retours en arrière avec des mobilisations conservatrices très fortes, ce qui invite à une vigilance de la part des luttes féministes sans cesse.
Réactualiser d'une certaine manière. Merci beaucoup Wilfried Roux, vous êtes l'un des trois auteurs avec Isabelle Attané et Carole Brugeil qui étaient avec nous en studio de ce formidable Atlas mondial des femmes, sous-titre important, sous-titre Les paradoxes de l'émancipation, un ouvrage paru aux éditions Autrement en partenariat avec l'INED, plus de 120 cartes et infographies sur la condition des femmes dans le monde pour prendre acte des avancées remarquables et mesurer les obstacles. Un grand merci à vous, merci également à l'équipe 7 milliards. Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Mallet-Solartz et Didier Chérouze. Vous pouvez réécouter ou faire découvrir cette émission Les Voisins grâce au podcast, disponible sur le site de RFI. Demain, j'aurai grand plaisir à vous retrouver avec le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Belle journée à l'écoute des programmes de RFI. À demain.